franceinter.fr.
Il est 8h22.
Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Marc Trévidic.
Bonjour.
10 jours après les pires attentats jamais commis en France, terrible échec pour notre système antiterroriste, est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics ont commencé à en tirer de bonnes leçons?
Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, en fait. Ils tirent des leçons en urgence d'une menace qu'on sentait présente. On savait que ça allait arriver. Alors pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? C'est parce que on peut pas prendre des mesures d'état d'urgence avant qu'il se passe un phénomène d'urgence quelque part. C'est difficile comme ça se lever un matin en disant tiens, état d'urgence, on est dimanche à partir de lundi. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne aussi en Belgique. Voilà. Maintenant, les travaux en profondeur, il a commencé depuis 2-3 ans.
Alors, dernière mesure révélée par les Échos ce matin, l'interconnexion des fichiers TRACFIN, la cellule de Bercy, qui aurait accès aux fichiers des personnes recherchées et donc et aussi aux fiches S, tandis que la PJ aurait un accès direct au répertoire des comptes bancaires. Est-ce que c'est, par exemple, ça, ce type de mesure utile, efficace?
C'est-à-dire que c'est un organisme qui détecte des mouvements financiers suspects. Or, les mouvements sont pas d'ampleur importante, en fait. Ils sont suspects par rapport aux gens dans le terrorisme. C'est pas des sommes énormes. Donc, il faut savoir que la personne est suspectée de terrorisme pour s'intéresser à ces mouvements et se dire, tiens, tel mandat Western Union, potentiellement, peut être intéressant. Parce que sinon, ce sont des chiffres. C'est pour ça qu'il faut qu'ils connaissent, effectivement, toutes les personnes suspectées de terrorisme.
Mais globalement, est-ce que ce que on a appris depuis 10 jours, ça montre des défaillances en matière de renseignement avec des individus, des voyages, des déplacements, des préparatifs qui sont passés sous les radars des services, ou bien des failles d'analyse du renseignement, c'est-à-dire parce que les informations étaient là, mais qu'elles n'ont pas été exploitées faute de moyens ou de communication entre services?
Il y a des failles, c'est évident. Il n'y aurait pas eu un attentat aussi organisé d'ampleur de cette sorte. Quelles sont les failles? Elles sont simplement des services débordés et qui a eu un service qui en fait a caché le fait qu'il n'y arrivait plus par des coups de chance ces derniers temps. Le Thalys, c'est un coup de chance. GLAM, c'est un coup de chance. Parfois, le renseignement a bien marché. Celui qui est revenu en août, il y a différentes choses qui peuvent se créer, mais on a eu beaucoup de chance. Et ça a permis de durer jusqu'à aujourd'hui, grosso modo.
Les attentats déjoués, c'est de la chance, Marc Trévidic?
La plupart des attentats, on ne les a pas déjoués, on a eu un coup de chance. Nemouche, on l'a arrêté par chance. GLAM s'est tiré dessus lui-même. Le Thalys, c'est... Il y a eu quelques opérations.
Ce dont on n'a pas eu connaissance, parce que les gouvernements s'en félicitent beaucoup, disent qu'il y a plein d'attentats déjoués qu'on n'a pas su.
Oui, bien sûr, mais on a arrêté pas mal de personnes. Vous n'en avez pas nécessairement eu connaissance, parce que quand elles sont arrêtées, c'est pas exactement la même chose que quand quelqu'un se retrouve dans le Thalys et arrêté. Mais dans l'ensemble, le constat de ces dernières années, c'est qu'on n'y arrivait absolument plus. On n'y arrivait plus. Et surtout, les gens qui étaient surveillés, vraiment surveillés là, en France, on n'arrivait même pas à les empêcher de partir en Syrie. Et puis tout le groupe de Tous Artigat est parti en Syrie. Alors qu'ils étaient vraiment leur collés dessus, les moyens maximum. Voilà. Donc, on n'arrivait pas à empêcher les gens de partir, on les empêchait pas de revenir. Le nombre de personnes que j'ai vues, qu'on a arrêtées au retour, certes, mais on ne savait pas qu'elles étaient parties. Tout ça, c'était des indicateurs qui montraient que ça ne fonctionnait pas.
Le 11 août dernier, un djihadiste français, Reda Ham, est interpellé au retour de Syrie. Vous l'interrogez, vous, Marc Trévidic, le 15 août, c'est votre dernière permanence de juge antiterroriste. Il vous confie, Reda Ham, qu'Abdelhamid Abaoud lui a demandé de commettre un attentat visant une salle de concert, c'est bien exact?
Oui, tout à fait, c'est exact. Oui. C'est exact. Ça faisait une des opérations téléguidées par celui qu'on appelait Abou Omar, de son nom de guerre. Et donc on voyait bien.
Et qui a été tué à Saint-Denis, je me rappelle,
tout à fait.
Dernier.
Mais qui avait une vraie fixation sur la France et qui a aussi fait des opérations en Belgique, comme à Verdier. Donc il y a quand même eu des choses qui ont été faites en Belgique à sa demande, et qui était l'un des chefs d'une katiba francophone. Franco-belge. Voilà, c'est qui son territoire d'influence et opérationnel, c'est la France et la Belgique.
Donc vous savez depuis la mi-août que Abaoud a demandé à un djihadiste français de préparer un attentat visant une salle de concert. Que se passe-t-il après ?
Il y a tellement de salles de concert, de salles de spectacle. Et puis moi, personnellement, après, je prends un peu de vacances et je m'en vais à Lille. Donc je ne peux pas vous dire trop la suite de cette enquête en particulier, des mesures qui ont été décidées suite à ça.
Oui, vous êtes sorti de l'histoire, mais voilà. cette information, ce renseignement,
Très important, effectivement.
Mis en exergue quand même par les
services. Ah oui, non, mais ils ont pris ça. Alors, je peux vous dire que la DGSI a pris ça vraiment à bras le corps, et c'était une affaire très importante pour eux. Ils ont commencé à enquêter, à approfondir pour essayer de savoir par rapport au contact que devait avoir cette personne pour se fournir des armes, pour qu'on lui donne la cible exacte qui était prévue. Ils ont vraiment travaillé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? S'ils ont eu des résultats, je ne sais pas.
Abaoud, vous en aviez entendu parler, évidemment, oui, auparavant, oui, sûr, celui qui se faisait appeler Abou Omar, ou le Belge de son
nom.
Pas très discret. Il avait un mandat d'arrêt international, visé par un mandat d'arrêt international. On sait depuis qu'il n'a pas cessé de faire des allers-retours entre la Syrie et l'Europe de Schengen, et la France. C'est là qu'il a été retrouvé mercredi à Saint-Denis, près de Paris. Est-ce que ce qui a été annoncé par les ministres de l'Intérieur des pays européens en fin de semaine dernière, c'est-à-dire la mise en place effective de ce fichier PNR, fichier interconnecté des passagers aériens dans l'Europe, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace?
C'est très utile. Pourquoi? Parce que ça permet en amont de contrôler les listes de passagers, donc de voir en avance, puisqu'on constate qu'aux aéroports, il n'y a pas de contrôle systématique du tout. Moi, j'ai été surpris, on parlait de mandat d'arrêt. Je me connais quelqu'un qui est revenu du Mali, à l'époque de la crise malienne, qui avait un mandat d'arrêt que j'avais lancé. Il a pu prendre l'avion, normalement, pour Paris. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, je connais une jeune fille de 16 ans qui a pu partir alors que ses parents avaient fait opposition à sa sortie, tout simplement parce qu'il n'y a pas contrôle systématique des passeports et des identités. C'est aléatoire. C'est ce que veut Schengen, d'ailleurs. Hein. Sauf que quand la gamine de 16 ans est toute voilée et qu'elle est mineure, on s'attendrait un peu de spontanéité dans le contrôle. Donc, comment il n'y a pas de contrôle systématique? On passe pas tout le monde. Il faut bien qu'il y ait un travail en amont qui soit fait sur les listes de passagers. Ça donne un peu plus de temps pour voir si quelque chose qui va pas. Maintenant, les vrais terroristes, je vous assure, ils ne voyagent pas sur leur identité. Franchement, c'est très rare. Hein.
On espère l'apprendre. Oui, Abaoud, en tout cas, donc vous aviez à la mi-août le nom de celui qui sera considéré comme l'un des organisateurs des attentats du vendredi 13 à Paris. Et le type d'action qu'il projette, c'est-à-dire l'attentat contre une salle de concert, c'est extrêmement troublant de savoir que les services antiterroristes avaient à disposition à la fois un nom et un type d'action.
Oui, nous reconnaissons que des concerts, il y en a tout le temps, partout, en France, à Paris, des salles, il y en a tout le temps, partout, qui sont contrôlées par des vigiles privés, généralement, des salles comme le Bataclan, il n'y a pas des policiers devant. Et puis les policiers, ils étaient où? Ils sont devant les synagogues, devant les lieux de culte, devant les zones plus sensibles. On ne peut pas les mettre partout. Voilà. C'est vrai que on craignait ça depuis longtemps, puisque là où il y a une foule très compacte, surtout faisant de la musique, parce qu'ils détestent la musique, il faut être clair, c'est un truc qu'ils ne supportent pas. C'est une cible, effectivement, symbolique pour eux.
On a beaucoup de questions d'auditeurs pour vous, Marc Trévidic. On va les entendre quelques-unes dans quelques minutes après la revue de presse. Un mot encore pour vous dire que François Hollande accueille David Cameron ce matin, le Premier ministre britannique. On apprend à l'instant que les deux hommes, avec le Président de la République, sont en ce moment au Bataclan, devant la salle du Bataclan, pour un hommage particulier aux victimes du vendredi 13 à Paris.